Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Vels, avec Simon Martin qui assure la technique. Je suis très heureuse de recevoir dans le studio aujourd'hui Anne Boussico-Ménera, qui est conseillère presbytérale et prédicatrice laïque. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors j'ai pris, le lectionnaire comporte aujourd'hui deux textes, pas très faciles. Qu'on les prenne séparément ou qu'on cherche à comprendre pourquoi ils sont ensemble dans le lectionnaire, ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai intitulé l'ensemble « Choisi pour une mission dans le monde, sans être du monde ». Le premier texte est tiré du livre des Actes, et Marie-Christine va nous le lire.
Oui, donc dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 15 à 26. « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là, réuni, un groupe d'environ 120 personnes. » Et il déclara « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit-Saint avait annoncé dans l'Écriture, par la bouche de David, à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service. Or cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu et ses entrailles se sont toutes répandues. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. Aussi, cette terre a-t-elle été appelée, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire terre de sang. Il est de fait écrit dans le livre des psaumes que sa résidence devienne déserte et que personne ne l'habite, et encore, qu'un autre prenne sa charge. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi pour prendre, dans le service de l'apostolat, la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. On les tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors adjoint aux apôtres.
Nous voilà donc au tout début du livre des Actes, au tout début de la vie sans le Christ, en tout cas sans sa présence en chair et en os, après un retour qu'on pourrait qualifier de provisoire pour les quelques jours suivant sa résurrection. Dans un temps de transition entre son départ définitif, pour employer le même type de terminologie, à l'ascension, et le don qu'il fait de son esprit à la Pentecôte. Et la vie sans lui doit s'organiser, car il est possible que la situation dure. Nous assistons à la formation de la première communauté de Jérusalem, qui est le lieu d'attente choisi par les disciples restés seuls. Les disciples sont dans leur salle de réunion habituelle, là où avait eu lieu le dernier repas, celui de la scène, dans la chambre haute. C'est Pierre, lui qui avait été nommé chef par Jésus, qui prend l'initiative et la parole devant ses frères, ainsi que se nommaient entre eux les premiers chrétiens. Sont présents les 11 disciples restants, sans Judas, donc, la mère et les frères de Jésus, ainsi que d'autres femmes. On peut d'ailleurs noter l'importance de la place accordée aux femmes dès le début de l'histoire de l'Église, ce qui, sans vouloir faire de mauvais esprits, a bien changé ensuite. Ainsi que bien d'autres personnes, pour une assemblée d'environ 120 personnes. Une impression personnelle, si vous me permettez. Pierre parle avec une autorité qui nous le montre bien loin du Pierre qui versait des larmes amères au moment de la Passion pour avoir trahi son maître et ami. Il s'est apaisé et a clairement repris confiance. Serait-ce là la prise de conscience de l'amour et du pardon inconditionnel de Dieu et l'effet de la force de consolation qui en découle ? Pierre rappelle ce qui est advenu à Judas en faisant référence aux Écritures. Il parle de David et des psaumes, et ce qu'il dit se retrouve dans les psaumes 69 et 109, et rappelle que celui qui a été responsable de l'arrestation de Jésus avait pourtant tout partagé avec eux. Passons sur la description assez peu ragoûtante de sa mort, qui diverge de celle qu'on trouve chez Matthieu où il va simplement se pendre. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'est-ce à dire ? La nécessité ne nous en apparaît pas très clairement. Faut-il tout simplement trouver un successeur à Judas ? Remplacer le trésorier ? Il est vrai que c'est une charge importante pour n'importe quel groupe. Ou bien plutôt reconstituer le chiffre idéal des 12 qui semblait si cher à Jésus, même s'il n'a jamais explicité ce choix dans son discours, mais en référence très certainement aux 12 tribus d'Israël, sans doute pour marquer la continuité avec le judaïsme. Luc, l'auteur du livre des Actes, est par ailleurs le seul évangéliste à réserver le mot « apôtre », qui vient du grec « apostoloi », qui veut dire « ambassadeur », à réserver ce mot « apôtre » donc au groupe des 12. Et on retrouve d'ailleurs ce chiffre dès le verset 15, mais multiplié par 10, pour exprimer la multitude des disciples, puisqu'on a une assemblée de 120 personnes. Luc veut montrer ici le souci de ce groupe de rester fidèle aux dispositions qu'avait prises Jésus pour organiser la mission de ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Un peu comme si le groupe choisi par Jésus devait être au complet pour avoir une compétence suffisante. La justification première de ce groupe, c'est donc cette mission qu'il leur est donnée après qu'ils y aient été déjà formés par Jésus lui-même. La continuité du témoignage. Le nombre de 12 fait de ce groupe le noyau du peuple qui va naître par l'action de l'Esprit, c'est-à-dire le noyau de l'Église, de même que les 12 tribus d'Israël représentaient le noyau du peuple de la première alliance. Qu'un autre prenne sa charge. Ce remplaçant ne peut pas être n'importe qui et deux conditions semblent requises. Premièrement, ce doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps. Cet homme, donc, doit avoir suivi concrètement Jésus, l'avoir connu pour de vrai et depuis le début de l'aventure, laquelle est rapidement résumée, pour pouvoir témoigner de sa résurrection, ce qui lui conférera, comme aux 11 apôtres, le même titre. Peu parmi les personnes présentes répondent à ces critères. On en trouve cependant, ou faut-il dire, on en trouve seulement deux. Deuxièmement, il doit être désigné par Dieu lui-même, seul à même d'opérer le choix ultime. De nos jours, on n'imaginerait certainement pas pour cela un tirage au sort, qui peut paraître une idée bien étrange et dépourvue de tout discernement. On procède plus volontiers pour trouver de nouveaux collaborateurs à un si petit groupe, soit à une simple cooptation par les membres actuels, soit à un vote après présentation détaillée des candidats. La procédure du tirage au sort peut surprendre, mais elle n'est pas sans précédent. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 24, on raconte comment les ecclésiastiques de service au temple ont été tirés au sort parmi les fils d'Aaron, leur nombre étant devenu trop grand du temps de David. Il y a de grandes chances pour que cette pratique ait été ensuite souvent reprise, notamment pour le service du temple. On peut aussi renvoyer à Jonas sur le bateau. Tirer au sort est en tout cas une pratique courante dans l'Antiquité, mais jamais considérée comme le pur fruit du hasard, toujours en lien avec une décision divine. On peut d'ailleurs constater que le procédé semble aller de soi puisqu'il ne fait pas l'objet d'une contestation ni même d'une concertation et est tout de suite adopté. Avec tout de même une précision non négligeable. Le tirage au sort n'a lieu qu'après une prière, destinée précisément à en faire le signe d'une décision divine. Au verset 24 à 26, on lit « Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère. » Ils tirèrent au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux 11 apôtres. Matthias, dont l'action restera sous silence, rejoignant ainsi les 9 autres apôtres pour lesquels le livre des Actes ne dit rien. En fait, seuls les actes de Jean de moindre importance et de Pierre débordant d'activité nous sont relatés. On peut noter aussi, entre parenthèses, que le livre des Actes consacre tout un cycle à Paul qui n'appartient pas au groupe des 12, d'où l'invitation de bon nombre d'exégètes à changer le titre du livre pour « Actes d'apôtres » ou « Actes de Pierre et Paul » par exemple. Je referme la parenthèse. Le moyen de s'assurer que Dieu participe bien au choix, c'est donc la prière. Une prière individuelle sans doute, mais aussi une prière commune et collective entre frères qui oriente le cœur et la pensée vers Dieu et est vecteur de communion, d'unanimité spirituelle. C'est cela qui est important après tout. Peu importe la procédure finale, il faut prier pour que le discernement se fasse. C'est d'ailleurs un sujet qui préoccupe presque constamment le Conseil presbytéral de notre Église protestante unie. En effet, nous aussi, nous devons régulièrement appeler de nouvelles personnes pour les différents ministères nécessaires à la mission de l'Église à notre niveau local. Nous avons même, il y a quelque temps, réfléchi tout un week-end sur ce sujet et pris connaissance des étapes conduisant au discernement, parmi lesquelles, cela ne vous étonnera pas, prendre conscience de ses mouvements intérieurs et favoriser l'écoute de la parole de Dieu. Ce qui peut clairement faire référence à la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, la justification première de ce groupe d'hommes et de femmes, c'est la mission qu'il leur est donnée, la continuité du témoignage. « Homme de Galilée, dit l'ange au verset 11 qui précède juste notre extrait, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Oui, ce qui est devant eux, cela a à voir avec ici-bas, avec le monde. » Alors nous qui sommes si loin dans le temps, qui ne remplissons pas au moins l'une des conditions, nous qui n'avons pas connu et suivi directement le Christ, pouvons-nous et comment pouvons-nous être à notre tour ses témoins? Nous n'avons pas accès au Jésus de l'histoire, mais à un Jésus présent-absent, nous donnant toute liberté pour trouver notre manière de dire la foi dans un langage d'aujourd'hui. Portons-nous maintenant dans le deuxième texte qui fait partie de l'évangile de Jean au chapitre 17.
Donc nous allons entendre dans l'évangile de Jean au chapitre 17 les versets 11 à 19. Désormais je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité.
Le texte de Jean confirme que nous sommes bien envoyés dans le monde. Je ne suis plus du monde, eux sont dans le monde. Qui avons-nous pour nous aider ? Pas de panique, Jésus y a pourvu. Au verset 13, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. La joie, voilà une première aide. De plusieurs manières, il a manifesté son amour pour nous. Le Christ absent ne cesse cependant pas d'être présent. D'abord, il nous confie à son Père, qui est aussi le nôtre. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Ce souhait nous associe à son lien avec Dieu, en créant une relation, une sorte de relation transitive d'amour entre le Père, le Fils et les disciples. Et cela, c'est une source de joie. Claudel a dit « Un chrétien triste est un triste chrétien. » Jésus nous fait dépositaire de la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer. « Moi, je leur ai donné ta parole. » Pour nous, évidemment, le témoignage de sa vie terrestre ne peut se faire qu'à travers les Écritures et leur interprétation, ce qui n'est qu'une autre manière de construire la chaîne du témoignage. Les Écritures et leur interprétation pour pouvoir témoigner, la prière pour discerner, là encore, nous avons besoin d'aide. Et il nous la donne. Si nous revenons un peu en arrière au chapitre 15, les versets 26 à 27, toujours dans l'évangile de Jean, bien sûr, nous lisons « Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. » Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. C'est donc le Saint-Esprit qui rend possible la vie et le témoignage de l'Église. Pour remplir cette mission de proclamation à tous les hommes de la bonne nouvelle que le Christ est bien vivant et bien présent parmi nous, nous pouvons compter sur ce consolateur défenseur. Il agit à travers nous et en quelque sorte valide nos paroles. Le Seigneur veut nous donner toujours à nouveau de la force pour vivre en chrétien et pour transmettre en parole et en acte la bonne nouvelle qui nous est confiée. Notre mission est donc dans le monde. Mais le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. On trouve la même chose ou à peu près déjà dans Jean au chapitre 15, verset 20 déjà cité. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. » Être dans le monde sans être du monde, qu'est-ce que cela veut dire? Comment être au milieu des hommes une manifestation du royaume? Ce monde est chargé d'une connotation négative. Il est en même temps le lieu de vie ordinaire de tout un chacun, mais aussi très manifestement le lieu de l'opposition au message de l'Évangile et à la personne même du Christ. Pour nous, un tel procès avec le monde a-t-il quelque actualité? Nos églises d'Occident ne sont pas persécutées, mais il n'en demeure pas moins une forte opposition entre l'Évangile et notre société. On dit de l'Europe occidentale qu'elle est chrétienne. Si cela veut dire qu'elle n'est ni marxiste, ni musulmane, ni animiste, il est vrai que bien des principes fondant notre société, liberté, respect des personnes et de la vie, etc., sont des principes chrétiens. Mais la course à l'argent, au pouvoir, à la réussite sociale, la compétition internationale, l'exploitation des pays moins favorisés, le plaisir et la jouissance confondus avec la joie et l'amour, tout cela est à l'opposé du message évangélique. Où nous situons-nous dans ce procès implicite mais permanent entre l'esprit du Christ et l'esprit du monde, qui nous fait encore si souvent retourner malgré nous au mensonge, à l'esprit de jugement ou à la volonté de puissance? Comment vivons-nous concrètement notre rapport au monde? Engagement ou non dans la cité, action de solidarité, recherche spirituelle, théologique, philosophique, ou bien prête à penser? Comment aujourd'hui le croire chrétien peut-il être différent des autres spiritualités proposées sur le marché? Qu'est-ce qui distingue l'économie du royaume, qui devrait être celle des disciples du Christ, et celle du monde? La parole de Dieu, libre et libératrice, émancipe des illusions mensongères et révolutionne la vie de tous ceux qui de proche en proche la recevront. Et elle nous est confiée à seule fin de la partager avec d'autres. Oui, en acceptant de nous laisser guider par l'Esprit et la parole de Dieu, nous pouvons être dans le monde, que nous le voulions ou non, nous y sommes de toute façon, sans être du monde. La manière chrétienne de vivre ne nécessite pas de se retirer du monde, et de demeurer cloîtré dans une église ou un couvent, mais d'accepter de vivre selon les règles de Dieu et non pas les nôtres, devenant à notre tour des ambassadeurs, des apôtres, afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite, et non la nôtre. Chacun est ainsi appelé, avec l'aide de la prière et de l'Esprit, à devenir un authentique témoin engagé là où il vit, dans les tâches qui lui sont confiées, et avec les dons qui sont les siens. Amen.
Je vous propose maintenant une prière d'après une confession de foi de la paroisse Plaisance-Montparnasse. Malgré nos incertitudes, nos doutes, nos impuissances, notre cynisme parfois, malgré la laideur et la violence de ce monde que nous faisons, je crois que Dieu se révèle par une parole et nous appelle à naître à une vie de service, d'intelligence et d'innovation. J'ose croire que Dieu offre liberté et justice à tout être. Parmi tous les hommes qui nous font prendre conscience du fondement dans lequel tout être puise son élan vital, Jésus-Christ est unique à mes yeux. Je crois fermement qu'il a révélé l'amour de Dieu pour tout homme et toute femme de ce monde par sa parole et ses actes. Il a donné sa vie pour que l'être humain vive libre et libère à son tour. Et de plus, j'ose affirmer que Jésus chemine à nos côtés et en nous. Il est vivant par ceux qui tentent de transformer le chaos en harmonie, le malheur en joie, le mépris en bonté et l'injustice en vérité. Par son esprit, il fait grandir dans la foi, suscite notre témoignage aussi bien que notre rigueur critique. Là où est l'esprit du Christ, là jaillit la libération. Que Dieu nous accorde d'être les témoins dans le monde de sa fidélité et de son amour, en parole et en acte, dans l'audace et la joie. Amen. Merci Anne pour ce moment de méditation. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.